Lorsqu'on pense au Saint-Esprit, on pense à diverses choses, mais il va rester, et sachez ça en tout cas, que par rapport à l'attente que vous avez, peut-être de tout comprendre, mais de toute manière, le Saint-Esprit va rester quelque part un mystère qui nous dépasse. Nous allons voir un certain nombre de choses, mais nous ne parviendrons pas à tout comprendre du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment quelque chose qui dépasse ce que notre intelligence est capable de comprendre. Et c'est normal parce que lorsque l'on parle du Saint-Esprit, eh bien, on parle de Dieu, on va voir ça, et Dieu est quelqu'un qui nous dépasse. Qui peut essayer d'expliquer Dieu? Comment Dieu peut-il exister? Moi, à l'école, j'ai toujours appris que rien ne se crée, tout se transforme. Tout a forcément un commencement. Tout ce qui existe vient de quelque chose. Eh bien, ça me semble tout à fait logique. Mais, qu'est-ce qu'à l'origine de tout ça? Alors, il y a un Dieu créateur. D'accord, mais ce Dieu créateur, qui l'a créé? Moi, dans mon intelligence, je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse exister un Dieu sans qu'il ait été créé lui-même par quelque chose. Et même si jamais on dit, oui, mais lui-même a été créé par quelque chose, mais au bout du compte, il y a forcément un commencement. Mais, eh bien non. Là, notre intelligence, dans bien des domaines, est dépassée. Eh bien, Dieu nous dépasse, et le Saint-Esprit est quelque chose qui nous dépasse, et à bien des égards, il restera un mystère pour nous. Mais l'important, ce n'est pas de tout comprendre. Des fois, moi, je sais que j'avais tendance à fonctionner comme ça. Si je ne comprenais pas quelque chose, je ne le mettais pas en pratique. J'avais besoin de comprendre. C'est sûrement très sage dans bien des domaines de notre vie, mais des fois, non. Il y a des choses où on ne comprend pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut s'appuyer dessus. Et pour nous, l'essentiel, ce n'est pas de tout comprendre, mais c'est déjà de recevoir ce que Dieu nous a révélé. Parce que nous avons vu ça dans les exposés précédents, mais Dieu ne nous dit pas tout, mais en tout cas, Dieu nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre essentiellement avec lui, pour savoir comment vivre en ce monde. Dieu nous révèle ce dont nous avons besoin de savoir. Voilà les choses que, en tout cas, Dieu a jugé bon de nous révéler sur le Saint-Esprit par l'intermédiaire de sa parole. La première chose que Dieu nous dit, une des choses que Dieu nous dit, c'est que le Saint-Esprit est une puissance. Et voici un passage biblique qui nous dit cela. C'est Jésus qui parle, c'était une des dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Ça signifie que s'il a une puissance, c'est que en lui-même, il est capable de faire bien des choses, il est capable d'agir. Le Saint-Esprit est quelque chose qui peut faire au-delà de ce que nous-mêmes sommes capables de faire, et même d'imaginer, de concevoir. Il a une capacité à faire des choses, à faire bouger des choses, à intervenir là où, par nos propres forces, nous serions incapables de le faire. Quelque part, lorsque Dieu nous dit « le Saint-Esprit est une puissance », il nous invite à compter sur le Saint-Esprit, à compter sur lui. Et Dieu fonctionne comme ça, la révélation générale de Dieu. Dieu nous dit « voilà, je suis là » et il nous invite à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui, à faire le pas de la foi, de nous dire « mais même si les choses des fois me semblent un peu folles, eh bien, Dieu me demande de m'appuyer sur lui. » C'est ça la foi, c'est cette confiance en Dieu, c'est le type de relation que Dieu veut développer avec nous. Et Dieu nous dit, Saint-Esprit est une puissance, vous pouvez compter sur cette puissance dans votre vie. La Bible présente également le Saint-Esprit comme une personne. Une personne avec laquelle on peut se comporter de différentes manières. Nous pouvons par exemple essayer de lui mentir. Je dis essayer parce qu'en fait on ne cache rien au Saint-Esprit. Mais on a un passage de Acte 3, là nous n'allons pas lire ce passage, mais où on voit que des gens ont imaginé qu'ils étaient capables de mentir au Saint-Esprit, et c'est une illusion. Mais en tout cas, Dieu nous dit qu'on peut au moins essayer de lui mentir. Comme une personne, on peut lui résister. Nous ne sommes pas obligés, parfois, d'aller dans le sens de ce que Dieu veut, le Saint-Esprit. On peut soit lui résister, soit faire le choix de coopérer avec lui. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous pouvons l'offenser. Nous pouvons l'attrister, même blasphémer contre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est également, comme une personne, est en mesure de nous enseigner. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne d'un certain nombre de choses. Le Saint-Esprit nous convainc, veut nous convaincre, il nous conduit, il entend, il parle, il annonce. Voici un des versets bibliques qui souligne cela. « Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est une personne. Ça signifie que nous pouvons avoir une relation avec lui, une interaction avec lui. Ce n'est pas seulement une puissance, mais c'est aussi une personne. La Bible nous dit également des choses étonnantes sur le Saint-Esprit, entre autres que le Saint-Esprit accomplit un certain nombre de choses, bien sûr, mais le Saint-Esprit accomplit des choses que seul Dieu peut faire. D'abord, le Saint-Esprit était là lors de la création. L'acte créateur a été opéré par l'Esprit de Dieu. Genèse versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. C'est Dieu qui a créé l'univers entier, tout ce qui existe, et le Saint-Esprit a procédé à cette création. Job 33, 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé, dit Job, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le Saint-Esprit est également celui qui donne la vie. Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui fait vivre, dit Jésus. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et là, dans ce verset, on voit également que l'esprit, l'action de l'esprit est associée à la vérité, à la parole. Et on a vu ça il y a quelques temps en arrière où on disait, mais jamais le Saint-Esprit ne contredit ou va à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est ce que Dieu nous révèle sur lui ou sur nous, et que la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu, donc forcément, les deux, en tout cas, vont dans le même sens. Il est dit du Saint-Esprit qu'il connaît tout. Donc ça, on arrive à peu près à le concevoir. Mais, quelque chose d'assez troublant, il connaît tout, y compris même les mystères de Dieu. Là où nous-mêmes, nous sommes incapables d'aller, le Saint-Esprit, lui, connaît tout de Dieu. En Corinthiens 2:10, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Difficile d'imaginer qu'il puisse exister quelque chose dans la création qui soit capable d'examiner même les profondeurs de Dieu. L'esprit est un saint également, fait tout ce qu'il veut, prérogative de Dieu. 1 Corinthiens 12, 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit. Les questions des dons que l'esprit distribue. Il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Le Saint-Esprit est également celui qui ressuscite. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine. Mais il a été rendu à la vie, par quoi ? Par l'Esprit, 1 Pierre 3,18. Toutes ces choses, seul Dieu peut les faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Ce qui nous amène à la conclusion suivante, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce que nous dit d'ailleurs Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne partage sa gloire avec rien d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est glorieux tout en haut et rien ne peut s'élever jusqu'à Dieu. Et pourtant, il est dit du Saint-Esprit que dans son action, il fait ce qui est réservé à Dieu seul. Et pourtant, toujours comme je disais qu'il y avait un mystère, hein, la Bible nous dit également que le Saint-Esprit est différent du Père et du Fils. Matthieu 28, 19, des paroles de Jésus, nous dit cela. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Comment être un véritable disciple du Dieu vivant, du Dieu éternel, du Créateur de tout? Eh bien, en s'approchant de Dieu comme un Père, par l'intermédiaire de Jésus, et en étant conduit, ou en vivant par l'Esprit Saint. Nous sommes là vraiment devant un mystère, comme il est inconcevable pour nous d'arriver à comprendre comment Dieu peut exister, lui qui n'a pas été créé. Eh bien là, on est face aussi à un autre mystère, où la Bible nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Rien. Pas autre chose que Dieu n'est Dieu. Et pourtant, la Bible nous révèle que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Dieu est quelqu'un qui nous dépasse totalement. Et ce mystère, moi je pense, en fait, il ne fait que renforcer la gloire de Dieu. Parce que ça signifie que nous devons absolument tout à Dieu. Vous savez, le gros problème de l'homme, c'est qu'il a tendance à être oublieux. Il oublie que Dieu est Dieu. Il finit par croire à rabaisser Dieu pour en faire, malheureusement, parfois, son serviteur. Il veut se servir de Dieu pour arriver à ses propre fin, il n'est pas reconnaissant du Dieu qui donne la vie, du Dieu qui tend la main, qui est prêt à faire grâce. On a tendance à rabaisser Dieu et à finir par croire qu'avec nos propres forces, on est capable de s'approcher de Dieu, parce qu'on le mérite quelque part. On est capable de rentrer en relation de Dieu avec nous-mêmes, parce que ben voilà, on est capable de nous élever jusqu'à Dieu. Et bien, dans sa parole, Dieu nous rappelle que Dieu nous aime comme un père. Il est notre Créateur, il est celui qui nous devons le respect. Alors pas le Père que nous avons connu, hein. J'espère que votre Père était quelqu'un de remarquable, mais la Bible nous présente Dieu comme un Père parfait. Celui qui prend soin de nous, celui qui nous aime, celui qui se donne pour nous. Celui auprès de qui on peut s'approcher. Mais également, il nous présente le Fils. Le Fils est celui qui, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui nous sauve en venant jusqu'à nous. En Jésus-Christ. Il nous sauve. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et même, la Bible nous présente Dieu comme étant l'Esprit qui vient en nous, qui vit en nous, parce que ça veut dire que même lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne le fait pas par nos propres capacités. On le fait parce que Dieu lui-même est celui qui nous a donné cette capacité de nous approcher de lui par son Esprit. Dieu nous dépasse. Le Saint-Esprit... On va s'intéresser maintenant à deux missions que le Saint-Esprit poursuit. Alors, le Saint-Esprit fait bien d'autres choses, hein, mais en particulier, on voit que le Saint-Esprit intervient dans le monde. Donc, quand je dis le monde, hein, c'est là où nous vivons, sur cette terre, hein, dans la vie des hommes. Et il intervient afin de convaincre le monde de son péché. Jean 16, 8. Des questions du Saint-Esprit. « Quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cette conviction peut naître en nous de différentes manières. Hein. Ça peut être une conviction intérieure. Il y a, et heureusement, moi je me réjouis de ça, il y a vraiment parfois des gens qui se sont détournés de Dieu. Des gens même dont le cœur était extrêmement dur, qui ont fait des grandes atrocités dans leur vie et qui, un jour, ouvrent les yeux et réalisent ça. Dieu, c'est lui, parfois, qui ouvre les yeux, qui amène des personnes à prendre conscience du mal qu'elles ont pu commettre. Donc, parfois, le Saint-Esprit agit par une conviction intérieure. Mais le Saint-Esprit également agit dans ce monde pour prouver le péché. Et la Bible nous dit, par exemple, que la mort et la résurrection de Jésus est une preuve que l'homme était pécheur. Parce que une preuve dans ce sens où Jésus, qui n'aurait jamais dû mourir, parce que lui était parfait, exempt de tout péché, eh bien, est mort, mais qu'il n'est pas resté mort, il est ressuscité, et que ça prouve que Dieu a validé son sacrifice. Eh bien, pour ceux qui ont, malheureusement, toutes ces foules, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ou pas, mais Jésus a été réellement, au cours de sa vie, apprécié, parce qu'il était vraiment unique dans ses relations avec les uns et les autres. Il était capable de rejoindre ceux qui jusqu'à là étaient tenus en dehors de la société. Il a pu parler aux plus pauvres, aux personnes blessées dans l'enfant intérieur, aux femmes qui à cette époque étaient considérées comme étant simplement des servantes. Il a pu s'adresser quelque part à des parias. Il a tendu la main à tout le monde. Il a vraiment été apprécié. Mais lorsqu'il est mort, la foule entière réclamait sa mort. Et sa résurrection est une preuve que cette foule s'est trompée. C'était censé être une preuve du péché de cette foule qui avait choisi de faire mourir l'innocent à leur place. Alors bien sûr, ce type de témoignage-là, donc l'action du Saint-Esprit, n'est pas toujours reçu. Et parfois, Dieu fait un certain nombre de choses dans le monde, mais les gens refusent de voir cela. Mais c'est une des actions, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais une des actions du Saint-Esprit dans le monde, c'est de convaincre de péché. Et convaincre de péché, pas pour écraser l'homme. Le but, ce n'est pas de l'écraser par la culpabilité, c'est de lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse changer d'attitude et se tourner vers Dieu. Parce que Dieu est celui qui veut faire grâce. Et l'autre action du Saint-Esprit, qui nous concerne en particulier, est d'intervenir directement dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Entre autres, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est d'établir un lien qui nous relie à Dieu, mais un lien définitif. Un lien que rien, absolument rien, ne pourra venir rompre. Éphésiens 1, 13, je crois que sur vos feuilles, oui, c'est la même chose que j'ai sous les yeux, le petit entre parenthèses SEM, c'est simplement que j'indique la traduction. Parce que tous les versets sont issus de, vous savez, les Bibles qu'on a à disposition, les Bibles blanches, sont issus de cette traduction-là. Et simplement, là, j'en ai mis une autre. Je trouvais que ça permettait le vocabulaire choisi mettait un peu plus ça en relief. Donc, il nous dit, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Très bien. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. Ceux qui ont cru en Dieu ont reçu l'Esprit Saint. On verra ça un petit peu plus loin. Ont reçu l'Esprit Saint qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Alors peut-être que nous, ce verset, on ne comprend pas forcément bien maintenant, mais rappelez-vous, enfin essayez d'imaginer à l'époque, le sceau, c'était la marque par laquelle le roi ou les gens qui avaient une autorité scellaient des documents. Lorsque un roi ou l'empereur décrétait quelque chose, pour être certain que ce qu'il avait décrété ne soit contesté par personne, il avait une bague avec un sceau, et il mettait, c'était sa signature. Et c'était quelque chose qui était, lorsque ça avait été décidé, c'était irrévocable. Bien, ce que Dieu est en train de nous dire là, c'est que la réception du Saint-Esprit en nous crée un lien entre nous et Dieu, et ce lien est totalement définitif. Nous avons reçu une marque, un sceau pour lui appartenir. C'est vraiment quelque chose, ça, qui transforme totalement la vie, parce que ça veut dire que nous avons un lien avec Dieu, un lien que même les circonstances autour de nous, quoi qu'il arrive, que rien ne pourra rompre, parce que Dieu lui-même a fait en sorte que ce soit définitif. C'est la promesse de Dieu, et justement, le Saint-Esprit, tout au long de l'histoire, a été en tout cas promis comme étant quelque chose qui devait venir. Là, je vous ai mis deux versets qui soulignent ça. Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, c'était à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'Esprit de Dieu, lorsque Dieu va accorder son esprit, l'Esprit de Dieu va opérer un changement dans nos cœurs. Est-ce que nos cœurs, malheureusement, sont parfois comme un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur dur? Et des fois, notre cœur est très tendre hein, par rapport à certaines personnes, mais combien parfois il est dur? Un cœur des fois insensible, et insensible parfois simplement, on a été tellement meurtri que notre cœur, c'est aussi de se mettre en sécurité. Hein. Lorsqu'on a beaucoup souffert dans notre vie, eh bien, on se protège. Moi, je me rends compte, c'est mon mode de sécurité, la protection. Hein. J'ai tendance à me rendre insensible. Et cette insensibilité par rapport à nos souffrances est peut-être bien parfois. Moi, ce que je me rends compte dans ma propre vie, c'est que lorsque mon cœur devient insensible à mes propres souffrances, il devient également insensible à ma capacité à aimer les autres. Et dans ces cas-là, on a besoin d'une aide extérieure. Eh bien, la promesse de Dieu, c'est qu'un jour, un jour, certaines personnes recevront cet esprit en elles, qui vont transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire qui va leur donner, enfin, une véritable capacité à aimer. À aimer Dieu, premièrement, à aimer notre prochain, et parfois même à nous aimer nous-mêmes. Joël 3.1 « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » On pourrait remplacer ici « serviteur » par « esclave ». Et en fait, qu'est-ce que nous dit ce passage? C'est que cette promesse, elle n'est pas réservée à une élite. Pour dire « voilà, oui d'accord, mais ça va ne concerner que... » une espèce de caste, de privilégiés, des gens peut-être très religieux ou des gens qui ont été protégés dans la vie. Là, c'est sur tout être humain, sans distinction. Ce n'est pas le fait de naître dans tel ou tel milieu, ce n'est pas le fait d'être homme ou femme, ce n'est pas le fait d'être jeune ou vieux, ce n'est pas le fait d'être, on va dire, quelqu'un de très en vue dans la société ou même simplement esclave qui va changer quoi que ce soit. Dieu, dans sa grâce, peut accorder son esprit à toutes ces personnes-là. Personne n'est exclu de ça dans le plan de Dieu. Voilà ce que nous dit déjà dans un premier temps la Bible sur le Saint-Esprit. Et elle nous dit que, en tout cas, Dieu nous a fait une promesse, c'est que cet esprit, cette puissance, Dieu lui-même peut venir dans nos vies. Et que cette promesse est en particulier destinée à ceux qui croiront en Jésus, comme nous le verrons plus tard.